France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour. Thomas Cluzel, le journal.
Avec le micro, voilà, c'est mieux. Bonjour à toutes et à tous. Les 27 se retrouvent aujourd'hui en sommet virtuel pour lancer des tractations aussi complexes qu'incertaines sur un massif plan de relance post-coronavirus. Les prévisions noires de l'UNEDIC, l'organisme chargé de gérer le régime d'assurance maladie, prévoit la destruction de 900 000 emplois à la fin de l'année. Les 150 citoyens membres de la Convention sur le climat sont réunis depuis ce matin jusqu'à dimanche pour adopter un paquet de mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand l'Australie annonce avoir été la cible d'une vaste cyberattaque, tous les regards se tournent vers la Chine. Enfin, l'invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État en charge du tourisme. Parce qu'il s'agit d'un projet novateur censé rendre l'Europe plus solidaire et davantage fédérale, mais aussi parce que les sommes avancées pour soutenir une économie sinistrée sont tout simplement colossales. Le plan massif de relance post-Covid qui sera discuté aujourd'hui lors d'un sommet virtuel des 27 a d'ores et déjà été présenté comme une étape historique dans la construction européenne. Et pourtant, ainsi qu'il convient généralement de le faire à chaque fois que les superlatifs viennent à manquer avant d'arriver à un compromis sur une question aussi complexe où l'unanimité est requise, la prudence reste plus que jamais de mise et d'ailleurs aucun accord en réalité n'est attendu lors de cette réunion qui devra avant tout permettre à chaque dirigeant européen de dévoiler ses objectifs et plus encore ses marges de négociation. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors, même si tous les pays de l'UE, sans exception, sont aujourd'hui le dos au mur, cette première passe d'armes à distance risque surtout au fond de révéler combien les divergences restent nombreuses, qu'il s'agisse donc du montant de ce plan, de sa durée, de l'équilibre entre prêts et subventions, mais aussi des critères de répartition des aides, sans oublier, Angélique, la délicate question d'une conditionnalité, c'est-à-dire la contrepartie réclamée à un État en échange de ses fonds.
Oui, car il y a, rappelons-le, 750 milliards d'euros sur la table, hein, dont 500 seraient, si les États l'acceptent, des subventions, des dons donc aux États qui en ont le plus besoin, non remboursables. Et cet argent, en effet, ne pourra pas être distribué sans garantie. C'est l'une des lignes rouges mises en avant par les États les plus sérieux de l'UE en matière budgétaire. Ces États du nord de l'Europe qui disent ne pas vouloir financer des puits sans fond, celui des États du Sud, Italie, Espagne et même la France, dont l'endettement avant la crise inquiétait déjà. Les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède ou encore le Danemark vont donc pousser pour que les États membres qui bénéficient de ces aides s'engagent à mener des réformes. Alors il n'est pas question de revenir à un système de surveillance, comme on a pu le faire avec la Grèce, précise un diplomate européen. La fameuse Troïka a laissé trop de mauvais souvenirs, mais il faudra sans doute préciser très clairement l'usage que l'on fera de cet argent, qui devra par ailleurs servir exclusivement à des zones et des secteurs impactés par la pandémie. Pas question qu'il aille apurer des dettes anciennes. Il devra aussi accompagner la transition écologique et numérique de l'Europe. Mais à quoi ressembleront ces contrôles? C'est l'un des points très difficiles de la négociation qui s'ouvre donc ce matin.
Alors au-delà des logiques de bloc, toujours à l'œuvre, quelques atouts plaident néanmoins en faveur d'un possible consensus. Tout d'abord l'ampleur de la crise donc qui frappe tout le monde, on l'a dit. Et puis dans quelques jours seulement, à partir du 1er juillet, Angélique, l'Allemagne assumera pour 6 mois la présidence tournante de l'UE.
Oui, et c'est un atout en effet, car si ce plan existe, rappelons-le, c'est bien parce que le moteur franco-allemand tourne de nouveau à plein régime. L'idée d'un endettement commun sur un tel montant, c'était inimaginable il y a encore quelques semaines. Mais face au risque d'une faillite de plusieurs États membres, Italie en tête, troisième économie de l'Union, la chancelière allemande Angela Merkel a fait preuve de pragmatisme et convaincu les pays dits frugaux de son utilité. C'est la France et l'Allemagne, en cheville avec la Commission, qui ont permis, rappelons-le, d'élaborer ce plan massif de relance dont il faudra certes négocier le montant, les modalités, la gouvernance, mais le principe d'un grand emprunt commun est acquis et ça c'est déjà une étape qualifiée d'historique par bien des observateurs.
Merci Angélique Boin en direct de Bruxelles. Les nombreuses aides déjà déployées par le gouvernement français pour soutenir les entreprises pendant la crise n'y changeront rien. L'UNEDIC, l'association paritaire qui gère l'assurance chômage, anticipe la destruction de 900 000 emplois salariés fin 2020 par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente. Des prévisions catastrophique qui, si elle se confirme, entraînerait l'indemnisation de 630 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, mais aussi un déficit d'une ampleur inédite de plus de 25 milliards d'euros, de même qu'une dette de 63 milliards. Alors tout ça est lié, bien sûr, à l'augmentation des dépenses d'allocation chômage, au report de cotisations, mais aussi pour moitié, Catherine Pétillon, au financement du fameux dispositif de chômage partiel.
C'est une plongée brutale et un déficit jamais vu, alors même qu'en février encore, l'UNEDIC tablait sur un retour à l'excédent à partir de 2021. Au cœur de ces nouvelles difficultés financières, le chômage partiel, responsable de la moitié de l'accroissement de sa dette. Le recours au dispositif a été facilité au début de la crise et ses modalités de financement ont aussi été modifiées. C'est désormais à l'UNEDIC de payer un tiers des sommes versées aux entreprises. Cela représente 11,5 milliards d'euros entre mi-mars et fin mai. C'est colossal et n'est financé que par l'endettement puisque ce n'est pas adossé à des cotisations. Voilà qui intervient alors que l'assurance chômage est déjà sans cela plus touchée par les crises que les autres systèmes de solidarité, car la baisse d'activité économique, cela veut dire en même temps plus de dépenses pour indemniser les chômeurs et moins de recettes car moins de cotisations. Sans compter que pendant le confinement, les entreprises ont bénéficié de reports de cotisations, autant de rentrées d'argent en moins pour l'UNEDIC, cela représente 19% de l'augmentation de sa dette. Tout cela conduit donc à un grand trou dans la trésorerie, alors même que le nombre de chômeurs va augmenter. L'UNEDIC estime que 900 000 emplois seront détruits d'ici la fin de l'année, conduisant à 630 000 demandeurs d'emploi indemnisés de plus que fin 2019. Le déficit de l'UNEDIC était au cœur des arguments de l'exécutif pour durcir les conditions d'accès à l'indemnisation chômage, des nouvelles règles dont les syndicats demandent toujours l'annulation. Des discussions avec l'exécutif sur le sujet sont attendues pour juillet.
Voilà, et puis s'agissant toujours de ce dispositif de chômage partiel mis en place pour pallier l'arrêt brutal de l'activité et éviter des licenciements, le gouvernement entend à présent redéfinir ce régime à la rentrée. Il a entamé en ce sens une concertation avec les partenaires sociaux. Déjà plusieurs chiffres circulent, notamment celui d'une possible baisse d'indemnisation de 70 à 60% du salaire brut pour le salarié. Les arbitrages devraient être rendus à l'issue d'une réunion des partenaires sociaux à l'Élysée, vraisemblablement la semaine prochaine. Concernant justement ces baisses de salaire provoquées par le chômage partiel, une étude publiée par l'INSEE ce matin nous apprend que les conséquences négatives du confinement ont été plus fréquentes pour les personnes aux revenus modestes. Au total, 20% des personnes interrogées ont vu leur situation financière se dégrader. Les ouvriers en particulier ont été les plus touchés. Puis le fait d'avoir télétravaillé est également très lié à la catégorie sociale. 58% des cadres et professions intermédiaires contre 20% des employés et seulement 2% des ouvriers, ou quand le confinement aura accentué en somme les inégalités sociales. Toujours est-il que le modèle du travail à domicile instauré sous la contrainte et la précipitation des événements sanitaires a depuis ouvert un champ des possibles, mais jusqu'à quand et surtout comment? L'expérience a au minimum ouvert la discussion. Quand certains rêvent déjà à la généralisation de cette pratique, d'autres se montrent plus sceptiques et l'envisagent davantage comme une solution à consommer avec modération. Quoi qu'il en soit, patronat et syndicats ont prévu de se rencontrer aujourd'hui afin de mieux encadrer cette nouvelle manière de travailler. L'Australie est cible depuis plusieurs mois déjà de piratage, a annoncé ce matin avoir été de nouveau victime d'une vaste cyberattaque visant les systèmes informatiques de plusieurs entreprises, mais aussi d'administration, jusqu'au gouvernement lui-même. Alors les autorités de Canberra soupçonnent un acteur étatique se faisant. Autant dire que la liste des suspects est plutôt réduite parmi les pays ayant un savoir-faire dans ce domaine, et en l'occurrence, des sources haut placées pointent directement du doigt la Chine. C'est une correspondance signée Grégory Pless.
Des hôpitaux, des universités, mais aussi des ministères ou encore de grandes entreprises en Australie subissent actuellement une rafale inédite d'attaques informatiques. L'offensive est si massive et si bien coordonnée que pour le Premier ministre Scott Morrison, seul un État est en mesure de mener une telle attaque.
Nous savons que nous avons affaire à un cyberacteur étatique sophistiqué en raison de l'échelle, mais aussi de la nature du ciblage des victimes.
L'objectif de cette déclaration, c'était d'abord de mettre en garde la population et de les appeler à rester vigilants sur Internet, mais aussi de faire savoir à l'auteur de ces attaques que ces agissements sont désormais connus. En revanche, Scott Morrison a refusé de citer nommément le pays auquel il faisait référence. Mais parmi les experts en Australie, il n'y a pas beaucoup de mystère. Le coupable, c'est la Chine, qui chercherait ainsi à faire payer l'Australie pour avoir barré à l'entreprise Huawei l'entrée sur le marché de la 5G.
Il était l'une des rares personnalités à côté de laquelle Jair Bolsonaro pouvait parfois, en comparaison, avoir l'air d'un dirigeant respectable et pondéré. Après un peu plus d'une année de gestion chaotique marquée par d'innombrables polémiques, le ministre de l'Éducation brésilien, poursuivi en justice pour racisme, injures et diffusion de fake news, s'est finalement résolu hier à quitter son poste. Alors le départ de ce fervent et sulfureux bolsonariste sous pression depuis des semaines est tout sauf une surprise. Reste que jusqu'au bout, le président d'extrême droite aura tout de même tenté de sauver son fidèle allié en vain. Donc, et puis si Jair Bolsonaro se retrouve une nouvelle fois en difficulté, c'est sans doute plus encore du fait de l'arrestation hier de Fabrício Queiroz. Cet homme apparaît en effet comme un personnage clé dans les affaires de détournement de fonds publics qui menacent directement le fils aîné du président. Les précisions à Rio de Jean-Mathieu Albertini.
Où est Queiroz? Depuis fin 2018, cette question s'était imposée comme un slogan entêtant pour une partie du Brésil. Fabrício Queiroz, ancien policier et ami de Jair Bolsonaro depuis 1984, avait disparu des radars peu de temps après que la justice ne commence à s'intéresser à ses activités. Pour les enquêteurs, il serait le pivot d'un schéma d'emploi fictif et de blanchiment d'argent organisé au sein même du cabinet de Flavio Bolsonaro, alors député de l'État de Rio. Mais Queiroz n'est pas un simple opérateur financier, il est le symbole des nombreux liens entre la famille Bolsonaro et des groupes mafieux appelés ici des milices. Une partie des sommes détournées aurait ainsi transité par les comptes d'un proche de Fabrício Queiroz, un chef de milice soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat en 2018 de la conseillère municipale Marielle Franco. Queiroz n'était pas officiellement en cavale, mais le parquet de Rio a finalement décidé de l'arrêter, jugeant qu'il interférait dans la collecte de preuves. Pour le président, cette arrestation est d'autant plus inquiétante que Queiroz a été retrouvé dans une maison appartenant à l'avocat de la famille Bolsonaro.
Comme chaque année depuis 155 ans, les États-Unis célèbrent aujourd'hui Juneteenth, aussi appelé jour du jubilé ou jour de la liberté en mémoire de l'abolition de l'esclavage, une commémoration en réalité assez largement tombée dans l'oubli, majoritairement célébrée par des réunions familiales et des messes à l'église, sauf qu'évidemment cette année, celle-ci intervient en plein mouvement de protestation après que plusieurs drames ont forcé le pays à faire son examen de conscience sur le racisme qui aura marqué son passé et imprègne encore aujourd'hui la société, de sorte que des milliers de personnes sont attendues ce vendredi lors des multiples manifestations prévues de New York à Los Angeles. Une commémoration également très politique dans la perspective de la prochaine présidentielle, au point d'ailleurs que le président Donald Trump, qui avait prévu de tenir aujourd'hui un grand meeting de campagne à Tulsa dans l'Oklahoma, ville marquée par le souvenir du plus grand massacre d'Afro-Américains, a finalement consenti, face à un torrent de critiques, de le reporter à demain par respect donc pour ce jour de commémoration. Ou quand le locataire de la Maison Blanche à la traîne dans les sondages, se trouve prise aujourd'hui à la confluence de plusieurs crises. Tout d'abord, cette vague historique de colère contre le racisme et les brutalités policières, sa gestion controversée ensuite de la pandémie, sans oublier les déclarations explosives de son ancien conseiller John Bolton dans un livre à paraître mardi. Et c'est dans ce contexte déjà chargé que le candidat républicain vient d'essuyer par ailleurs deux camouflets successifs à la Cour suprême. Lundi, celle-ci avait étendu les droits des salariés homosexuels et transgenres, et hier, la plus haute juridiction du pays a validé les protections accordées par son prédécesseur à 700 000 jeunes migrants, les Dreamers, que le président voulait supprimer. Enfin, en parallèle, notons que Facebook, régulièrement accusé de laxisme vis-à-vis d'un président qui se répand sur les réseaux sociaux en messages électoraux et attaques frontales polémiques, a fini par retirer hier des publicités publiées par l'équipe de campagne de Donald Trump parce qu'elles affichaient un triangle rouge inversé, symbole utilisé par les nazis pour désigner les prisonniers politiques dans les camps de concentration. À quelques jours des célébrations en Russie marquant les 75 ans de la victoire soviétique sur les nazis, Vladimir Poutine tente lui de réécrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans une longue tribune que lui a accordée une revue conservatrice américaine. Le chef du Kremlin y répète ses accusations à l'égard des Européens, polonais en tête, de vouloir faire porter à l'URSS, au même titre qu'à l'Allemagne nazie, la responsabilité de la guerre. Claude Brouillot nous appelle de Moscou.
À cause de la crise sanitaire, Vladimir Poutine n'aura pas le 24 juin, en tous les cas pas de la même façon, la tribune internationale qu'il espérait le 9 mai pour commémorer les 75 ans de la victoire soviétique sur les nazis. Et cette tribune littéraire est l'occasion pour lui d'inverser les rôles et de fustiger le révisionnisme des Occidentaux. Vladimir Poutine réitère ses accusations contre la Pologne, complice selon lui des nazis pour récupérer des territoires en Tchécoslovaquie. Il cite Churchill, clairvoyant pour lui, quand il affirme que le pacte germano-soviétique a permis à l'URSS de préserver sa sécurité contre la menace hitlérienne. Il balaie rapidement les protocoles secrets du pacte Molotov-Ribbentrop comme un acte de pouvoir personnel sous-entendu de la part de Staline qui ne reflétait pas la volonté du peuple soviétique. Rien sur les milliers de morts polonais lors de l'offensive de l'armée rouge. Vladimir Poutine dénonce enfin la posture du Parlement européen quand il met sur un pied d'égalité l'Allemagne nazie et l'URSS comme les deux déclencheurs de la Deuxième Guerre mondiale. Pour le président russe, cette paperasse, comme il l'appelle, sape littéralement les fondements de l'Europe d'après-guerre et correspond à un révisionnisme dangereux. Enfin, il termine en faisant le lien avec la période de la crise sanitaire actuelle pour défendre le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, garant, selon Vladimir Poutine, de la recherche de compromis.
Retour en France à présent où la Convention citoyenne pour le climat a débuté ce matin sa session finale pour adopter un paquet de mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre auquel Emmanuel Macron répondra la semaine prochaine. Alors les membres de cette convention sont notamment appelés à se prononcer sur l'inscription de la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution, mais aussi toute une série de mesures concrètes dont certaines potentiellement clivantes et dont il pourrait recommander qu'elles soient soumises à référendum. Véronique Robérot, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté ce matin à l'ouverture de cette session pour laquelle 134 des 150 citoyens tirés au sort pour cet exercice de démocratie participative inédit ont fait le déplacement et se sont retrouvés donc pour la première fois, Véronique, après 3 mois de confinement.
Oui, car entre-temps, la crise du coronavirus est passée par là. Forcément un choc pour tout le monde, évoque en préambule la coprésidente de cette convention citoyenne, Laurence Tubiana. L'attente des Français vis-à-vis du travail de ces 150 citoyens n'en ressort que plus renforcée de cette crise du Covid, estime Laurence Tubiana.
Aujourd'hui, tout le monde pense que vous êtes une des grandes solutions des problèmes que la France rencontre et de la manière de les dépasser. Et je trouve que parce que vous avez proposé 150 propositions, on verra ce que vous votez, ce que vous gardez ou ce que vous laissez tomber. Mais c'est un vrai projet de société, vous l'avez affirmé, vous le réaffirmez dans vos textes, c'est vraiment important. Bah, la France vous attend. Bah oui, la France vous attend.
Voilà, la tribune Guy, un des citoyens grave et ému à la fois, évoque lui la très grande satisfaction d'avoir œuvré à ce travail donc collectif de Français lambda.
Après de longues heures, de longues journées, de longues soirées, d'apprentissage, de découverte, de recherche, avec 150 citoyens d'égale importance, qui ont su s'écouter, se parler, voire même se disputer. Ces interactions fortes ont permis de faire germer une merveille, l'intelligence collective. Nous avons fait le pari de l'émergence de l'intelligence collective. Je crois personnellement que c'est un pari réussi.
Voilà, les discussions commencent à peine. Les propositions retenues, les autres aussi, seront consignées bien dans un rapport de 600 pages remis à Elisabeth Borne, donc en personne dimanche, puis au président Macron, à qui l'actrice Marion Cotillard, présente ce matin, demande à son tour de faire preuve de courage.
Je pense que les politiques peuvent vous remercier d'avoir fait tout ce travail, parce que vous avez fait un travail complet et remarquable. Maintenant, on attend d'eux et du président de la République qu'ils soient aussi audacieux, je dirais même courageux que vous, et que ça débouchera sur des actions réelles. Voilà, merci.
Voilà, Emmanuel Macron rencontrera donc ses citoyens le 29 juin de cette convention. Le rendez-vous a été fixé ce matin.
Merci Véronique Robérot, ainsi qu'à Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. L'invité de la rédaction à présent aujourd'hui, Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État en charge du tourisme. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Pierre Neveu. Bonjour Pierre.
Bonjour
Une
Thomas.
Première question, monsieur Lemoine, nous évoquions à l'instant donc la Convention citoyenne pour le climat. Parmi les propositions figure notamment l'interdiction des vols intérieurs, si alternative il y a en moins de 4 heures. De même d'ailleurs que l'interdiction de la construction de nouveaux aéroports. Craignez-vous que ce genre de mesures soit dommageable au secteur du tourisme ?
Vous savez, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé, justement, dans un travail fait avec Air France, qu'il souhaitait que, par exemple, le ferroviaire soit privilégié pour les destinations en moins de 2 heures de vol. Donc, ce travail-là, il est enclenché. Puis, Naturellement, le but, c'est d'aller aussi vers un tourisme qui soit plus durable, plus soutenable. Je crois que il y a une prise de conscience. D'ailleurs, j'ai missionné l'ADEME pour travailler sur ce sujet-là. Et nous allons sortir une feuille de route aussi. Et nul doute que je crois que les temps que nous avons vécu aussi vont faire évoluer la façon dont on voyage et dont on pratique ce tourisme.
Question de Pierre Neveu.
Jean-Baptiste Lemoine, les frontières sont ouvertes en Europe depuis le début de la semaine. Les contrôles ont été levés. Est-ce que la clientèle européenne sera de retour dans nos hôtels, sur nos terrains de camping?
C'est ce que je sens. J'étais lundi en Belgique, justement, pour ce jour important où nous avons levé les contrôles et pour dire à nos amis belges, bienvenue en France. Et en allant à leur rencontre, à la rencontre des camping-caristes, à la rencontre également des cyclotouristes, etc., j'ai vu que l'envie de France, elle était intacte. Et c'est vrai que l'Europe, ça constitue en fait les trois quarts de la clientèle internationale de la France. C'est donc important. Et moi, je me réjouis que la liberté de circulation, nous l'ayons recouvrée dans l'espace européen. Et je dis bienvenue en France à tous les Européens. Les professionnels du tourisme les attendent et déroulent le tapis rouge.
Alors, vous demandez aux Français d'être le moteur du redémarrage de l'économie touristique. Quels sont les premiers retours de terrain? Avez-vous déjà des chiffres?
Alors, il y a effectivement un rattrapage qui se fait. Le secteur du tourisme, il a été totalement à l'arrêt pendant quasiment 3 mois. Il s'est arrêté à 99%, donc c'était un coup de un choc massif. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a mis aussi en place un plan de 18 milliards d'euros pour les accompagner. Et depuis que le 14 mai, nous avons indiqué qu'il y avait cette capacité à organiser ses vacances en juillet et en août, notamment en France, on voit les réservations qui... un effet rattrapage, notamment pour les locations de vacances, pour les campings. Le président des campings m'indiquait que ça y est, ils espéraient avoir sauvé la saison. Il faut continuer l'effort, je le dis, aux réservations citoyens, puisque c'est un acte patriotique cet été aussi, en solidarité avec ces professionnels qui ont beaucoup souffert. Et puis la France, on a une chance énorme, c'est que vous pouvez en réalité faire le tour du monde en faisant le tour de France, parce que il y a tellement de variétés, de diversité, de paysages, de terroirs, de pays. La France est le pays des pays, et qu'il y en a pour tous les goûts.
Quand est-ce que nous, Français, on va pouvoir partir hors de l'Europe? Est-ce que vous avez des dates? Est-ce qu'il y a des conditions déjà de fixer si on veut partir sur le continent nord-américain, par exemple?
Alors, le président de la République a indiqué que nous travaillons à ce qu'au 1er juillet, il y ait une première série de pays au-delà de l'Union européenne avec lesquels les échanges peuvent reprendre, les voyages peuvent reprendre. Donc nous sommes dans ce travail très intense avec nos collègues européens. Nos ambassadeurs se retrouvent encore cet après-midi pour déterminer justement les critères objectifs épidémiologiques qui permettent de voir quels sont les pays qui ont maîtrisé l'épidémie ou en tous les cas qui ont des taux d'incidence, comme on dit, c'est le terme consacré par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui sont identiques à ceux de l'Europe ou, en tous les cas, pas significativement supérieurs. Donc, il y a tout un travail méthodologique qui se poursuit. Et j'ai bon espoir que, en milieu de semaine prochaine, on puisse avoir une première liste d'une cinquantaine de pays qui pourraient être à nouveau accessibles, où nous pourrions accueillir également ce public-là.
Et justement, pour accueillir les touristes étrangers, quels dispositifs d'accueil et de contrôle sanitaire sont mis en place, notamment dans les aéroports? Est-ce que l'on est prêt?
Alors, tout à fait. Le monde aéroportuaire a fait un très gros travail et notamment Augustin de Romanet pour ADP évoque souvent cette notion d'habeas corpus sanitaire, c'est-à-dire d'ensemble de règles qui permet d'assurer aux voyageurs, depuis le moment où il met le pied dans le terminal de départ jusqu'au moment où il sort au terminal d'arrivée, que à tous les moments de la chaîne du voyage, il ne prend pas de risque sanitaire. Donc ça passe notamment par la prise de température avant l'embarquement, ça passe également à l'arrivée par le passage devant les caméras thermiques qui permettent de déceler s'il y a des anomalies, en cas de pépin, d'orienter vers un médecin. Donc vraiment, les acteurs du transport, ferroviaire, aérien, se sont préparés sérieusement. Et c'est pourquoi on peut inciter nos compatriotes à planifier leurs vacances, à réserver, parce que tous les professionnels, ils ont mis en place ces protocoles. On ne joue pas avec la santé des Français. C'est vraiment, je crois, la maxime cet été.
Le tourisme, ça concerne des milliers de saisonniers, des étudiants, des professionnels. Quels dispositifs sont prévus pour les aider? Parce que la saison va être très courte.
Oui. Alors d'une part, il a fallu décaler la réforme de l'assurance chômage, justement, pour que les saisonniers, dont la saison a été interrompue, je pense aux saisonniers, par exemple, du tourisme de montagne cet hiver, qu'ils ne soient pas pénalisés dans leurs droits. Donc ça, c'était une première décision. Par ailleurs, pour beaucoup de prestataires touristiques, il va falloir recruter très rapidement pour une saison qui approche maintenant, très vite. Donc, on a mis en place, on la lance lundi prochain, une plateforme, justement monemploitourisme.fr, qui permet de faire se rencontrer l'offre et la demande, et ainsi favoriser la reprise aussi pour ce public-là.
Est-ce que vous avez chiffré le manque à gagner rapidement pour les saisonniers, pour la profession ?
Alors, pour l'ensemble de la profession, 3 mois d'arrêt, c'est entre 30 et 40 milliards d'euros de pertes de recettes. Au niveau individuel, ça a un impact, naturellement. C'est pourquoi on a voulu que les aides, le fonds de solidarité, par exemple, soient accessibles aux professionnels jusqu'à la fin de l'année. Et on continue à travailler pour certains, pour lesquels les réponses ne sont pas encore tout à fait abouties. Et je pense aux guides conférenciers, par exemple, qui sont parfois qui enchaînent des CDDU, etc. Donc là, il y a un travail avec le ministère du Travail sur ce point-là.
Merci Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État en charge du tourisme, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Pierre Neveu ainsi qu'à Yves Lehorse pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Le ciel sera encore bien nuageux avec des averses localement qui traverseront surtout la moitié nord du pays, mais aussi les Pyrénées avant une franche amélioration dans la soirée. Quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nathalie Lopez et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.